Bienvenue tout le monde dans ce nouveau format d'émission. Donc, Les Gardiens de la Terre, c'est un format qui va me permettre de mettre en lumière des personnes qui œuvrent pour la préservation, la protection du vivant et de ses connaissances et de ses savoirs liés au vivant. Et donc, pour cette première des Gardiens de la Terre, j'ai l'honneur de recevoir Antonin Delattre. Bonjour Antonin.
Bonjour.
Tu vas
Bonjour les
bien?
amis.
Antonin, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes de la communauté qui vont nous regarder? Après, de toute façon, on va revenir sur ton parcours en lien justement avec le vivant.
Très bien. Je m'appelle Antonin et je me dédicace au jardin depuis maintenant. J'ai l'âge de 15 ans, donc ça fait à peu près 25 ans que je travaille dans le même axe en connexion avec le monde végétal. Donc passionné par les jardins, déjà par la nature. En étant parisien, je me sentais très en lien avec le jardin, avec les arbres. Et l'endroit où je me sentais bien, c'était dans les jardins. Donc j'ai suivi le fil de ce sentiment et j'ai commencé à apprendre. Voilà, tout doucement, par passion, par l'art des jardins, pratiquement de création de jardins, que ce soit l'histoire des jardins et la passion des jardins ou l'idéologie de la création des jardins, en commençant par les Japonais, la Renaissance, les jardins, les roseraies, voilà. Donc, beaucoup de types de jardins différents et d'arbres. Et par ce chemin, j'ai appris beaucoup de la diversité des plantes. J'ai beaucoup visité les jardins botaniques. Donc, je me suis intéressé beaucoup par la diversité des plantes. Et après, je me suis intéressé à l'utilité de ces plantes, à l'utilité de ces arbres, à l'utilité des bambous, des roses, des plantes qu'on trouvait sous nos pieds, les plantes alimentaires. Et je me suis tourné vers l'agricole. Vers l'agriculture biologique. J'ai fait des études en agriculture biologique, puis en biodynamie. Donc, une partie de l'agriculture biologique un peu plus tournée vers le spirituel. Et j'ai continué mes études en approfondissant sur les plantes médicinales et comestibles. Voilà, les plantes médicinales sauvages et comestibles. Donc j'ai appris plus ce qu'on trouvait vraiment dans la nature, dans les montagnes, dans les collines, dans les prés. Voilà. Ça, c'était toujours dans la connaissance, l'apprentissage théorique du monde végétal, dans leur nom, leur histoire aussi, la façon dont elles poussent, où elles poussent. Voilà. Et après, à quoi elles servaient. Et bien sûr, quand on apprend tout ça, on apprend aussi leur histoire. Et on se connecte avec tous les gens qui ont gardé ces savoirs, qui savaient ça et qui le transmettent. Alors on peut l'apprendre sur les livres, mais aussi on l'apprend aussi. Ce qui est très intéressant, c'est de l'apprendre aussi en direct par des gens qui ont appris par d'autres. Voilà. Alors au début, j'étais beaucoup qu'avec des anciens, qu'avec des personnes plus âgées. Et depuis quelques années, c'est devenu. Avec le renouveau, le retour à la nature, la permaculture, on s'est tourné vers plus de personnes de mon âge, de différentes générations qui avaient envie d'apprendre et on partageait ça avec plus de générations. Au début, c'était plus des anciens. Voilà. Quand j'ai commencé, moi, c'était pas aussi à la mode. Et voilà. Et ce parchemin, après j'ai rencontré des peuples qui étaient très connectés aussi avec la nature. Et en voyageant, bien sûr, et continuant cet apprentissage des plantes, avec aussi bien notre culture indo-européenne, l'alchimie, on pourrait dire l'alchimie, ceux qui travaillent avec les plantes, ceux qui transforment les plantes d'une manière aussi un peu spirituelle. Ça, c'était très en lien avec la biodynamie aussi. Puis, les peuples premiers, les peuples aussi bien du nord des États-Unis. Que ce soit du centre d'Amérique, avec le Mexique, et l'Amazonie aussi, qui sont très connectés avec le monde végétal. Voilà.
Wow.
Donc, ce qui m'a intéressé, c'est de relier, c'est de faire des ponts entre des savoirs et surtout l'homme et les plantes, la connexion, la relation entre les hommes et les plantes et leur histoire. Voilà. Voilà un peu mon chemin.
Ah, quand tu me présentes ça, moi je suis estomaqué de voir le panel de, j'allais dire, de l'éventail très très large de tes connaissances qui part des espaces verts, enfin de l'aménagement végétal pour l'esthétique, puis après la connaissance des plantes, les plantes comestibles, les plantes médicinales. En plus, je sais que tu fais de la transformation et des élixirs aussi. Enfin, il y a vraiment quelque chose, je me dis, mais waouh, là je suis en fait avec un expert, quoi.
Ah, j'apprends toujours, j'apprends toujours.
Oui.
Parce que dans le monde
Oui.
végétal, j'ai beaucoup tâtonné, j'ai beaucoup été aussi dans la reproduction de semences, j'ai aussi assis après la reproduction de semences, le maraîchage, mais toujours en. Bien sûr, c'est des années de travail quand on veut approfondir, bien sûr, un métier,
Bien sûr.
comme tu le sais bien. Donc, que ce soit le maraîchage ou la culture de plantes légumières, je connais, mais je ne suis pas non plus un grand. Voilà.
Moi, j'ai une question qui me vient avec tout ça tout de suite, j'allais dire, qui me brûle les lèvres, tu vois, c'est finalement, c'est pourquoi le végétal? Tu vois, qu'est-ce qui t'a attiré depuis le début, en fait, tu vois, le truc, parce qu'il y en a qui peuvent, ça va être les animaux, les
Ah,
végétaux, les humains, et c'est quoi le lien que tu as avec le végétal, justement, qui a l'air d'être phénoménal?
je pense que tout comme tout le monde, on a notre. C'est très intime. Hein. Ma réponse va être très intime. C'est aussi dans des moments de un peu de perdition, de tristesse ou d'incompréhension du monde extérieur. Ça me permettait de trouver un refuge. Dans ce monde-là, j'étais bien. C'est comme si le monde végétal ou les arbres ou la nature me renvoyaient quelque chose de très doux et de très un amour inconditionnel ou quelque chose comme ça qui me permettait de me connecter, me relaxer, d'être dans un élément qui me permettait de relâcher mes tensions peut-être et de me sentir bien. Voilà. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que justement mettre les mains dans la terre. Et se permettait de comme décharger quelque chose des négativités. Ça, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, et ça, c'est prouvé scientifiquement maintenant. Et je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est pour ça que je suis allé vers. Et c'est vrai que souvent, ces petits moments où je vais juste au jardin et je plante et je sème, ou voilà, je travaille la terre, ça me fait vraiment du bien. C'est vraiment quelque chose c'est comme si j'avais trouvé aussi ma manière de m'exprimer aussi à travers ça.
Moi, j'ai envie de revenir sur ton. Bon, je sais qu'il y a eu le parcours en espace vert et en agencement. Là, c'est être gardien du vivant d'une certaine manière, mais plutôt dans l'apparence du vivant. Enfin, pas dans l'apparence, mais dans la forme du vivant. Mais moi, j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus tout de suite dans le fond, plutôt le lien avec, comme tu disais, l'utilité de la plante, à quoi elle servait. Qu'est-ce qui t'a aussi amené une fois que tu étais dans ce végétal-là, de passer le cap pour voir tu vois, les plantes comestibles, les plantes médicinales, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là?
Qui s'est passé. Ouais. C'est vrai que c'est toujours. J'avais planté beaucoup de plantes, d'arbres. J'ai planté des millions d'arbres, des millions de plantes dans mon travail de jardin quand on fait de la création. Ouais. Et aussi le fait que les hommes honorent tant les plantes et leur histoire et tous ces mythes qui accompagnaient les plantes. On a vraiment des belles histoires qui accompagnent les plantes, certaines plantes qui sont très utilisées, encore maintenant, on connaît. Et l'origine de leur nom aussi. Et après, tout ce qu'on pouvait en fait, pratiquement tout ce qui nous vient, ce qu'on peut créer, nous vient des plantes. Voilà aussi. Et tous les médicaments nous viennent des plantes. Donc, ce qui m'intéressait, c'est de retrouver les origines. Et je pense qu'à force de toucher le végétal, je sais pas, je me suis intéressé aussi à ce qu'il pouvait amener comme bienfait aux hommes. Et aussi en lisant l'histoire des hommes à travers la façon dont ils parlaient des plantes, ça m'a beaucoup touché. Et je me suis dit, mais comment ils peuvent avoir une connexion si forte avec le monde végétal? Enfin, voilà, d'approfondir cette connexion avec le monde végétal. Et comment ils ont su que ça soignait? Comment ils ont su que ça pouvait soigner quelqu'un et soigner plusieurs personnes avec et soigner certaines maladies qui étaient vraiment difficiles à soigner? Et ils ont décrété, et, enfin, pas décrété, mais ils se sont rendu compte que vraiment que cette plante-là, elle servait à ça. Donc ça c'est vraiment ce qui m'a vraiment interrogé. Je cherche toujours, en fait, on cherche toujours hein, la mystère. Et je continue à lire des livres de personnes très intéressantes qui ont creusé le sujet, qui par leur aide, c'est la biodynamie qui en parle beaucoup, et Steiner et Goethe, qui, dans leurs livres, parlent beaucoup du lien. Bien sûr, maintenant, on a les bases scientifiques, les analyses scientifiques qui permettent de reconnaître réellement l'action d'une molécule d'une plante sur l'action sur le corps humain et le côté sensible. Et la biodynamie en parle beaucoup. C'est Einstein, hein. Science sans conscience, mais science avec conscience et intention. Et sentiments, relations particulières avec la plante. Voilà. Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce qu'on ressent? Et j'ai tout de suite connecté avec des gens qui faisaient des approches sensibles au niveau des plantes. L'approche sensible, voilà. Et ils nous faisaient respirer des plantes, ils nous faisaient sentir des plantes, manger des plantes et ressentir où la plante avait une action dans notre corps. Donc ça, c'était pratiquement première sensation, ressenti. Qu'est-ce que le parfum, le goût, ou après le résultat sur nous, qu'est-ce qu'on pouvait ressentir de cette plante? Et quels adjectifs, de quelle partie elle venait à agir en nous?
Ça, c'est déjà un peu une sorte de. Bon, quand je t'entends parler de ça, c'est un peu une sorte de développer un senti particulier avec la plante, mais c'est aussi pour moi rentrer déjà en lien avec l'esprit de la plante mère. Parce que
Voilà.
les mots qui viennent, si tu es inspiré par des qualités, même si tu les sens pas dans ton corps, imaginons que tu manges une plante et puis tu te dis bonté, par exemple, ou je sais pas, ou récupération, ou des choses comme ça. C'est que pour moi, tu es inspiré, quoi. C'est la plante qui te souffle les réponses, en fait, quoi. Parce que, ok, que tu te dises, ah oui, tiens, quand je mange cette plante, ça, tiens, ça vibre un peu dans mon rein ou dans mon foie. Là, c'est limite ton senti à toi corporel. Mais d'avoir des informations qui arrivent comme ça en contact avec la plante, c'est vraiment un lien beaucoup plus subtil, déjà, quoi.
Oui, il nous apprenait à ressentir ça, d'ouvrir cet espace en nous. Tout en nous apprenant l'histoire de cette plante à travers les générations du passé. Donc aussi, j'ai eu la chance de rencontrer des grands-pères qui étaient gardiens aussi de cette ethnobotanie, en tout cas de nos terres françaises, aussi bien de nos terres françaises, mais que des terres, que ce soit du monde entier, hein, que ce soit. Parce qu'après, ce qui est intéressant, c'est quand on voyage, de ressentir ça partout. De ressentir, et quand on ceux qui sont agriculteurs, jardiniers, ils ont cette connexion avec les jardiniers partout dans le monde, partout où ils vont. Donc ça, c'est très beau, aussi, cette relation, parce que les gens qui ont une relation avec le végétal, ils se reconnectent après partout dans le monde. Et ce qui aide beaucoup, c'est justement cet apprentissage scientifique qu'on a aussi en Europe avec le nom latin des plantes. Parce qu'on a réussi à classifier et à par des travaux d'hommes qui ont passé leur vie à classifier les plantes, on peut se permettre de communiquer avec plein de gens du monde entier qui se communiquent du même nom. Donc ça, c'est un langage international, le langage scientifique des plantes. Ce qui est intéressant aussi. Et ce qui permet de retrouver beaucoup d'histoires et justement de l'histoire justement de la médecine à travers différents pays. Et de connexion entre différentes molécules, aussi bien aromatiques pour les parfums que médicinales.
Voilà. C'est chouette, hein, tout ça. Et donc, pour toi, la biodynamie, en fait, comment c'est rentré aussi dans ta vie? Parce qu'au début, tu parles Tu as la biodynamie qui est rentrée, mais c'était en lien avec l'agencement des jardins, ou c'était dans la culture des plantes?
C'est la culture des plantes médicinales. Ouais. C'était l'agriculture biodynamique en elle-même, ouais, qui m'a appelé. Et bah, par le fait que j'avais rencontré des agriculteurs qui travaillaient de cette manière-là, et ça me touchait la manière dont ils parlaient du vivant, la manière dont ils traitaient le vivant par des traitements très très homéopathiques et surtout d'une manière différente, voilà, et saine. Je trouvais ça sain. Et toute une, je dirais une spiritualité ou une manière de voir les choses différente qui pour moi était de l'ouverture et qui m'a tout de suite touché. Il parlait beaucoup d'astrologie, il parlait des planètes, de la lune. Donc ça, c'était des choses dont on ne parle pas tout le temps. Et l'influence de tous les astres, de tous les la lune, ça c'est assez classique maintenant, mais voilà, mais ça me touche, ouais, ça m'a touché. Et beaucoup aussi la relation avec plein de petites choses, la lecture du vivant qu'ils avaient aussi. Voilà, je trouvais ça intéressant. Très poétique.
Moi, ça me fait penser, ça a aucun rapport, mais ça me fait penser à une anecdote que je vais te partager. En fait, j'étais allé boire un verre de vin avec mon épouse dans un verre chez nous là-bas, dans le vers Tournon, donc en Ardèche, où il y a des bons coteaux de Côtes-du-Rhône, de Cornas et tout. Et à un moment, de la table d'à côté, il y avait un couple, et c'est le gars, c'était un viticulteur du sud de la France. Et en fait, c'était un gars qui cultivait à l'ancienne, sans machine. Sans traitement chimique, et tu vois, et ils pestaient contre les agriculteurs qui étaient dans leur tracteur parce qu'ils disaient ils sont plus en lien avec la terre. Et ils me disaient, ben moi, quand mes vignes, quand je les touche, je touche les feuilles, je sais si elles ont besoin d'eau ou pas, quoi. Et moi, ça me suffit. Et en fait, lui, il touchait chez les végétaux et il passait dans ses vignes en touchant ses végétaux pour savoir de quoi ils avaient besoin parce que ça faisait peut-être 50 ans qu'il faisait ça. Il était tellement en lien avec sa terre et ses vignes qu'il n'avait pas besoin de traitement, de machin. Et c'était assez drôle parce que ça résume tout ça, quoi, tout ce savoir. Enfin, lui, c'était une terre proprement dite qu'avec presque la même plante. Mais cette connexion et ce lien avec sa vigne, tu as l'impression qu'il parlait de ses enfants, quoi, quand il parlait de sa vigne, quoi. Et c'est ça qui était hyper, hyper beau, quoi.
C'est vrai que peut-être c'est une question de pratique, juste de toucher les plantes, à force de toucher les plantes, de les fréquenter, d'être avec elles. Ou c'est comme si on communiquait simplement dans un autre lien, juste pas forcément par la parole, la vue, ou juste des ressentis qui sont là. On voit si elle est bien, si elle n'est pas bien. Et c'est vrai que j'ai lié ces derniers temps aussi beaucoup l'aménagement, la création paysagère à mon métier de jardinier de plantes médicinales. Donc ça, moi, c'est dans un projet de vie de créer un jardin ethnobotanique. Donc voilà, ça, ethnobotanique, c'est vraiment sur l'ethnie, le peuple et la botanique. Donc aussi toutes les plantes qui servaient avant ici, qui servaient. Donc ça, c'est d'être en gardien de la terre, mais gardien aussi des savoirs des ancêtres qui vivaient sur nos terres ici, ces connaissances. Et donc aménager des espaces qui sont en même temps beaux et en même temps utiles, voilà, en même temps avec des plantes médicinales, dans la diversité aussi, dans la diversité de ce qu'on peut retrouver dans différentes régions de France et pays. Voilà, donc en gardant aussi des savoirs, des plantes qui sont, le voyage des plantes maintenant, les plantes ont beaucoup voyagé aussi. Voilà.
C'est
Ça me
ça.
passionne. Ça me passionne.
Ouais, je trouve ça chouette d'avoir une vision vraiment globale. Ça veut dire que de lier aussi l'esthétique et le beau, donc que ça soit bon pour le corps, mais bon pour l'œil. Enfin, d'avoir des plantes médicinales dans un jardin qui est joli et esthétique, moi je trouve ça vraiment assez exceptionnel, quoi.
Et donc après aussi, après jardin sacré aussi, on peut parler de jardin sacré aussi. On peut parler de jardin sacré aussi. Parce que souvent, les jardins, ils étaient créés aussi pour des dieux. Les jardins japonais, c'est vraiment des jardins qui sont créés pour recréer des symboles. Moi, c'était mes premières passions de jardin japonais, mais c'était pour recréer des espaces de vie très sacrés. Voilà. Pour représenter l'unité du monde dans un jardin. C'est-à-dire qu'on pouvait juste méditer sur le jardin et se connecter avec le monde. Donc c'était des beaux messages aussi, le jardin.
Et là, t'as un projet de jardin sacré comme ça, ou pour l'instant c'est encore...
Ah bah chez moi, oui. Mais
En
j'ai
tout
eu
cas,
des projets en Suisse. Ouais. J'ai commencé des projets en Suisse, ouais. Avec des gens qui ont été touchés par ce que je communiquais et qui m'ont appelé pour faire ce genre de choses. Les jardins en lien avec la permaculture et en même temps, bien sûr, la géobiologie et voilà, comment organiser un espace et créer des espaces. Parce que c'est beaucoup, ça peut être un lieu de ressourcement, le jardin. Ça peut être un lieu aussi de ressourcement, mais d'apaisement. Mais voilà, c'est vraiment pour moi, c'est le jardin, c'est une médecine. Voilà.
Ce que tu dis, Ah, j'ai perdu le son là. Je te vois, mais je ne t'entends plus.
Tu m'entends là?
Ah,
Là, tu
si,
m'entends?
ça y est, c'est revenu. Ouais, c'est revenu. Moi, ce que tu me dis, ça me fait penser aux anciens. Je crois que c'était les maîtres grecs qui enseignaient à leurs élèves, à leurs disciples dans la nature tout le temps, en fait.
Ouais.
Et ça, je me dis, de voir un jardin sacré, ça pourrait être aussi bien pour se connecter, pour méditer, pour transmettre, pour instruire, pour
Exactement.
s'éveiller. C'est hyper chouette, quoi.
Voilà, et c'est vrai que après oui, voilà, pour éveiller, puis c'est vrai que moi ça m'a beaucoup aidé en tant qu'adolescent aussi, voilà, ce contact avec la nature, et voilà, j'ai envie de redonner ça aussi bien aux enfants qu'aux adolescents qu'aux personnes. Donc ça, c'est j'ai beaucoup animé de jardins, de balades ethnobotaniques, et ça soit aussi bien dans la montagne ou dans des jardins, parce que la terre est un grand jardin.
Et là, tu me parlais de montagne, mais je sais que tu vas cultiver aussi cueillir des plantes sauvages
Oui.
ou des plantes dans la montagne. Tu peux nous en parler un petit peu plus ou...
Tout ce travail de jardinier m'a amené pour être producteur maintenant de plantes médicinales et aromatiques. Donc aussi bien de la tisane dont on transforme les plantes aromatiques et médicinales, de la tisane, des plantes sèches bien sûr, de l'huile essentielle, des macérats, on peut faire des macérats avec les plantes, des teintures mères, des eaux florales, hydrolats, et après des pommades, élixirs, onguents. Voilà, donc après, quand on cueille les plantes médicinales, donc moi c'est vrai que j'ai commencé par cette passion aussi à me rencontrer dans la montagne et à accueillir des plantes dans des milieux sauvages. Ça m'a beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, comme j'aimais beaucoup marcher dans les montagnes, je me suis dit, ah bah tiens, ça serait aussi bien d'aller vers ce métier, d'aller récolter des plantes utiles, les transformer et pouvoir les offrir aux gens qui ont pas l'occasion d'aller marcher dans les montagnes. Alors moi, j'ai commencé par une plante très classique, très française, la lavande. Hein. Ça fait maintenant 12 ans que je cueille la lavande sauvage d'altitude, à 1500 mètres d'altitude. Donc ça, c'est vraiment une passion. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à vraiment me relationner au même endroit. Je connais toutes les plantes voilà. Et la grand-mère qui m'a autorisé à accueillir sur ces terres. Donc c'est des montagnes sauvages où il y a des lavandes à perte de vue. Elle me dit, elles sont plus belles depuis que tu viens. Bon, c'est vrai que ça fait un moment. Donc on taillait. Et ça, c'était aussi pour retour c'était des. Là-bas, dans ces régions, ils vivaient de 7 à 77 ans grâce à la lavande. Ils allaient tous cueillir la lavande l'été. Et il y avait les bergers qui passaient après. Et tout était. La maison, la montagne était toute organisée autour de la lavande, autour des brebis. Mais c'était beau. Et voilà, c'était un beau savoir que j'ai pu reconnecter et voilà, qui me donne toujours beaucoup de bonheur. Voilà. Et je découvre toujours des nouvelles plantes dans ces montagnes, qui sont des endroits très protégés. Et donc, voilà. Et on fait de l'huile essentielle de lavande avec. Voilà.
En tout cas, je mettrai en description de la vidéo, je mettrai tes coordonnées, parce que s'il y a des gens qui ont envie d'avoir l'huile
Ouais.
essentielle de lavande de la montagne ou des baumes ramassés avec des plantes médicinales sauvages. En tout cas, c'est chouette. Et là, le projet, enfin, je sais pas, est-ce que tu as des projets actuels par rapport à toutes ces plantes? Bah, tu sais, tu avais le projet, tu disais des jardins sacrés, l'évolution vers autre chose. Et là, actuellement.
Et là actuellement, ouais, c'est en ce
Ouais.
moment, ouais, c'est en ce moment. Ouais. Bah là, de continuer à planter ce jardin et de continuer à transformer ces plantes et aller approfondir aussi sur la transformation, bien sûr. Et comment aussi la reconnexion aussi des hommes et des femmes avec ces plantes. Justement, comment continuer la transmission, continuer que ces hommes aussi, voilà, toucher le cœur de, voilà, que ces plantes aussi puissent continuer à toucher le cœur de ces hommes et de ces femmes, aussi bien par l'ingestion que par la rencontre avec ces plantes. Voilà. Donc ça, voilà, c'est comme si j'avais trouvé ma mission de vie, de pouvoir guider les plantes, guider les hommes et les femmes vers ce chemin, pour ceux qui ont envie, voilà, ceux qui sont touchés par ce, et si ça peut aider. Parce que c'est dans ces moments, justement, un peu accéléré, où tout le monde est un peu accéléré, le rythme de tout le monde est un peu accéléré. La lavande, par exemple, elle vit dans un endroit très, très paisible. Très, très paisible. Dans un endroit où le temps n'est pas le même. Et c'est très. Et justement, la lavande apporte le calme et la paix. Et c'est une plante qui agit énormément contre le stress. Voilà. Exemple. Donc voilà, je sens que c'est pour redonner aussi bon, ça, à la lavande, pas juste quelque chose qui est pour désinfecter le linge, mais aussi pour redonner, comment on dit, un blason, redonner l'honneur à cette plante.
C'est lettre de noblesse, on pourrait
Voilà,
dire
c'est
ça.
merci. C'est lettre de noblesse à cette plante, par exemple, voilà. Et à tous ceux qui l'ont. Tous les ancêtres et tout, voilà, qui l'ont cueilli et qui l'ont valoré et qui se sont soignés avec.
Moi, ce qui me vient, c'est de me dire là, tu me dis que la lavande, par exemple, elle pousse dans un endroit qui est plutôt paisible, parce que justement, c'est en lien avec sa vibration, parce qu'elle est là pour apaiser. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça de plantes sauvages? Par exemple, ben, telle plante va pousser à côté d'un cours d'eau parce qu'elle est en lien avec autre chose, ou tu vois, il y a vraiment des caractéristiques particulières?
Ah oui, chaque plante a vraiment son biotope. Et le biotope est en lien aussi avec tout notre façon, nous, en tant qu'êtres humains. Les plantes sont un bel exemple d'adaptabilité à leur environnement. Et donc, on peut vraiment être inspiré et reconnaître leur adaptabilité. Et ce qui nous permet aussi de nous adapter et d'être plus fort au changement climatique, au changement de température, au changement d'humidité. Et elles, on les voit pleines de vie, pleines de vigueur, voilà, qui sont toujours à fleurir. Donc on peut. Parce que les anciens se nourrissaient beaucoup plus de plantes. Peut-être parce qu'ils avaient moins. Il y avait moins de supermarchés. Donc,
Voire pas du tout.
pas du tout. Donc ils étaient plus en lien avec le monde végétal et ils se nourrissaient plus de végétal. Et chaque. Aussi plante, en tout cas comestible et médicinale, à son époque de floraison et à son époque où on la mange, où on la cueille, et qui est en lien aussi avec les saisons et qui peuvent nous aider à passer les saisons. Par exemple, un lien, c'est à tout ce qui est les plantes comestibles du printemps, le poireau, les asperges sauvages, les poireaux sauvages ou les asperges sauvages, les salades. Qu'on cueille souvent sauvages, sont pour nous un très bon aliment du printemps pour détoxifier, pour enlever ce sont des dépuratifs et qui nous aident à libérer les toxines de l'hiver, accumulées de l'hiver. Ça, c'est un exemple, hein, parmi d'autres.
J'adore parce que dès qu'on parle de végétal, je me dis, mais ça veut dire que c'est la perfection totale parce que si on est en lien avec les saisons, les plantes qu'on a à côté de nous, enfin autour de nous, en lien avec la saison, elles sont toujours parfaites pour ce qu'on doit vivre. Ça veut dire que de vouloir manger des fraises au mois de décembre, c'est un peu une connerie. Mais par contre, de manger des fruits, des légumes de saison qui naturellement sont accessibles pour nous, eh ben, ils ont des bienfaits dans notre corps qui correspondent à la saison. Alors que de vouloir se croire, j'allais dire, au-dessus de la nature et de se dire, bah non, en fait, comme tu dis, les poireaux, là, c'est au printemps, ben non, ben moi, je les veux en octobre. Bah oui, mais ça n'a pas de sens. C'est comme si on voulait aller faire du ski à la Méditerranée. Ben non, il n'y a pas de neige.
Ah, la Méditerranée, oui, il y a de la neige, on peut se baigner et faire du ski, pas loin.
Oui, mais pas. Enfin, tu m'as compris.
Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Et c'est en lien avec la nature, en vivant avec les saisons. En lien. Et c'est vrai que c'est délicat parce que en ce moment où tout est accéléré, où tout, on peut tout avoir, c'est difficile de revenir à des choses plus simples. Plus simples. Voilà. Et justement, c'est un livre qui a été écrit en 1500, je ne veux pas me tromper, 1500 et quelques. Je veux dire 1525, je crois, par Dioscoride, qui s'appelle Les Simples. Et ce sont les plantes médicinales sauvages et comestibles, en 1500 déjà. Et ce qui s'appelle Les Simples. De la simplicité de, voilà, de connaître. Il disait qu'autour de nous, on peut, à 50 km, on a toutes les plantes pour se soigner, aux alentours.
Et puis il y a aussi, moi quand tu me dis ça, ça me fait penser à, souvent on parle de plantes qui arrivent de loin, tu vois, on va prendre des plantes d'Amérique du
Oui.
Sud, d'Asie et tout ça,
Oui.
alors qu'en fait, chaque terre a les plantes qu'il faut, quoi. Tu vois,
Exactement.
on va aller prendre du ginseng qui vient de Chine, mais peut-être que autour de nous, je suis sûr qu'il y a une plante qui a le même effet, et les mêmes, pas le même effet, enfin c'est pas la même plante, mais qui va avoir les mêmes fonctions par rapport à notre corps, mais peut-être qu'on a oublié ou qu'on ne connaît plus. Je trouve c'est ça que je trouve chouette de redécouvrir aussi, quoi.
Ouais, il y a une petite anecdote qui est assez connue, mais qui est un peu qui est rigolote. C'était une femme qui était malade, je ne sais plus, qu'elle avait une maladie très rare et qu'elle avait du mal à se soigner. Elle avait été voir des gens du monde entier, toutes les médecines du monde entier, partout. Les hommes médecine et des femmes, la médecine traditionnelle, la médecine moderne aussi. Et personne n'arrivait à trouver à la soigner. Et en rentrant chez elle, bon, t'es un peu. Bon, elle s'est dit, bon, bah, écoute, j'ai tout fait. Et son jardinier lui dit, ah ben là, il y a une plante qui pousse dans votre boîte aux lettres. Il paraît qu'elle aide pour des dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements, c'est ce qu'elle avait. Et elle poussait, cette plante, elle poussait dans sa boîte aux lettres. Donc après, en plus, on peut pousser parce que dans les plantes, voilà, donc c'était vraiment, cette plante, elle poussait là pour elle. Et souvent, la
Ben
terre a des
oui.
réponses. La Terre a des réponses. Et ça, c'est un monsieur, Christophe Péri-Gentil, qui a fondé une herboristerie en Suisse, qui est un monsieur très intéressant qui m'a raconté cette histoire, et qui avait créé un jardin sur l'évolution des plantes, une herboristerie très, très, très belle. Et lui disait que oui, les plantes sont là, sous nos pieds. Et souvent, elles germent. La levée de germination se fait par l'homme qui passe tous les jours sur cette terre. Après, il y a plein d'exemples, hein, mais c'est hyper intéressant de rencontrer, de sentir cette relation entre l'homme et la terre dans laquelle il vit. Et que certaines plantes germent parce que l'homme en a besoin sur cette terre. Ouais, un exemple, rien qu'à Paris, hein, entre les trottoirs et le béton, il pousse que des plantes qui s'appellent la cressonnette, qui sont comestibles, hein, le pissenlit, la cressonnette. Et une autre qui s'appelle ah, c'est son nom, qui aide pour les minéraux. Elle pousse vraiment dans les cailloux et choses comme ça. Et en fait, ces plantes, bah, c'est les Parisiens qui boivent beaucoup de café, qui fument beaucoup de cigarettes, qui ont une alimentation très acide. Et bah, ces plantes, elles sont désacidifiantes du corps et reminéralisantes. Donc, vraiment, c'est des plantes que les Parisiens devraient manger. Je ne dis pas qu'ils devraient manger entre le. Voilà. Mais ça, c'est un exemple. Donc même à travers le béton, les plantes réagissent pour montrer des signes à l'homme. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est toujours ce qui m'a. Alors c'est des anecdotes, bien sûr, hein, mais c'est.
Mais moi ça me fait penser à un truc, enfin, Voilà, il y a 10 ans en arrière, j'avais une maison avec un jardin, je faisais un petit potager. Bon, chose que je fais plus en ce moment de potager, mais. Et j'avais vu à l'époque, et je pense que c'était une étude que j'avais dû lire à l'époque, qui s'était rendu compte que quand tu marches pieds nus dans ton jardin tous les jours, en fait, c'est comme si ça informe la terre et les légumes qui vont pousser en lien avec tes carences. Enfin, les légumes vont venir combler tes carences et que c'est fait comme un cercle. Et que finalement, l'essentiel, alors eux, ils avaient vu le truc de qu'il fallait marcher pieds nus dans la terre et tout. Après, je me dis avec les Parisiens, c'est comme si, en fait, on a oublié que la terre, la terre-mère, en fait, elle nous nourrit. Elle ne nous nourrit pas que parce qu'on va cultiver des rangées de maïs. Elle nous nourrit, en fait, elle est là pour nous nourrir de manière globale, quoi. Et qu'en fait, elle prend soin de nous de dire, oh, regarde, les 3 petits humains, là, il leur manque ça, bah tiens, je vais faire pousser ça. Ah, ils ne l'ont pas vu. Bon, bah, je continue, je vais refaire pousser ça. Et c'est ça que je trouve beau, quoi.
Ouais. Et une dernière anecdote aussi sur ça, sur le fait aussi de bah, ces oublis de connaître, de connaissance des plantes, et surtout aussi les histoires du passé de nos territoires qui sont intéressantes. C'est par exemple en Beauce, hein, là où ils cultivent des milliers d'hectares de blé transgénique avec en culture chimique. Sur 300 hectares, il n'y a plus que 10 espèces de plantes sauvages qui poussent. Sur 100 hectares, par exemple. On retrouve que 10 espèces en bord de, hein, donc il y a une diversité qui est très, 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 très pauvre. Alors que dans une prairie de montagne, on trouve 50 espèces au mètre carré. Au mètre carré. Alors que, et ça, c'est Gérard Duceppe, je cite, hein, et 10 espèces sur 100 hectares en Beauce. Mais ces 10 espèces, lui, il les appelait les plantes du mal. Les plantes du mal, c'est-à-dire qu'elles indiquent un dysfonctionnement de la terre très, très fort. Et après, moi, c'est ça, c'est ma théorie, parce qu'en étudiant avec les peuples premiers et les peuples d'Amazonie, ce sont des plantes qui sont la belladone, la jusquiame, la datura, et qui étaient les plantes des sorcières. Et ces sorcières, elles utilisaient ces plantes d'une manière particulière. Elles savaient les utiliser. On utilise toujours en homéopathie, hein, c'est toujours des plantes qui sont utilisées en homéopathie, à des très, très, très faibles doses. Ou en microdose. Et ce qui est intéressant, que si on savait encore un petit peu utiliser ces plantes, les hommes qui passent le tracteur toute la journée sur ces terres, s'ils prenaient des microdoses de cette plante, ils changeraient de travail, ils ne passeraient plus, ils ne remonteraient plus dans leur tracteur. Juste une dose d'une de ces plantes, ils ne remonteraient pas sur leur tracteur. Ça, c'est intéressant parce qu'ils n'auront plus de connexion avec la Terre, ils pourront plus faire ce travail. Parce qu'ils auraient vu le message de la Terre. Voilà. Et à travers les plantes, on peut voir le message de la Terre.
Tu
Et
veux
le
dire qu'en plus,
repenser.
ces plantes qui sont là, c'est des plantes de limite de conscience. Ça veut dire qu'il y en a, elles vont soigner le corps, mais celle-là, elle va soigner la conscience, elle va ouvrir la conscience. C'est-à-dire que l'agriculteur qui. Limite, qui prendrait ses plantes, il remonterait dans son tracteur et il verrait l'étendue des dégâts, la désertification de sa terre, et il se dirait, ah non, qu'est-ce que j'ai fait, quoi?
Ouais, ils sont,
Waouh.
ouais, je pense que. Après, ça, c'est ma théorie à moi. C'est moi, c'est ce que je, c'est mon image. Mais c'est vrai qu'il y a certaines plantes qui révèlent une conscience et puis qui révèlent le fait de plus faire mal à la terre, ouais, d'une relation à la terre qui est plus bonne. Ouais, en tout cas. Voilà.
En fait, ce qui me vient quand je t'entends dire ça, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est faire des ateliers chez les gens et leur parler des plantes qu'il y a chez eux, pour que ça aille venir leur parler d'eux. Ça pourrait être chouette, quoi. Moi, j'aimerais bien te faire venir dans mon jardin et que tu me parles des plantes qui sont là, parce que je vais pouvoir faire le lien de se dire, ah ouais, telle plante, elle fait ça, et faire le lien avec, tu sais, moi. Et je me dis, mais ça serait une super évolution de. Parle-moi de ton jardin, je te dirai qui tu es ou ce qui va pas dans ta vie, tu vois. Ça pourrait être.
Après, c'est vrai que moi, j'avais à force de faire des jardins chez les gens, ben, j'ouvre la porte d'un jardin, je rentre dans le jardin, je sais la relation que la personne. Enfin, c'est très intime, un jardin. C'est très
Oui.
intime. C'est comme si je rencontrais la personne à travers son jardin. Et je peux voir des choses à travers le jardin, à travers la façon dont les hommes.
Ouais. Allez,
C'est
vas-y, donne-nous
intéressant.
une anecdote. Alors, là, t'en as trop
Alors,
dit, vas-y.
oh, ben en plus, j'ai fait des jardins de stars, donc je vais pas balancer les
Non,
stars.
mais un truc sans citer quelqu'un, mais par exemple, tu vois tel jardin, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, vas-y, un petit exemple.
Un jardin où t'es laissé très très sauvage, très très sauvage. C'est quelqu'un qui est très sensible, qui est très sensible, qui ne veut pas forcément couper les plantes et qui justement qui laisse faire les plantes, qui laisse faire la nature et qui est plutôt artiste, ouais, je dirais. Ou ça, parce que je veux pas mettre de l'image, mais on le voit, les jardins très au carré, très, très tout
Ah bah
retourné,
oui.
tout propre. On peut sentir déjà la personne, comment elle
Très
se trouve,
contrôlant.
voilà, tout simplement. Mais après, c'est vrai que ça rentre dans l'intimité. Et surtout après, c'est dans la demande des gens, dans la demande de qu'est-ce qu'ils ont envie comme relation avec les plantes, qu'est-ce qu'ils ont envie comme relation avec la terre, avec leur jardin, la nature. Ça, c'est intéressant, je trouve, aussi.
Non, tu vois, moi j'aime bien un peu les deux. Moi j'aime bien qu'il y ait des parties qui soient aménagées, puis des parties qui soient un peu en vrac.
Et on le voit par rapport au peuple. Les jardins anglais, c'est quand même structuré, mais ils laissent sauvage. Voilà. Les jardins italiens, il y a quand même une très très structure. C'est très, très. Mais voilà, ça, c'est dans le temps. Mais c'est vrai que maintenant, je me préoccupe plus à être gardien de savoir. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de garder ces savoirs des plantes et du jardin. Voilà, que je pourrais transmettre en tout cas à ceux qui ont l'oreille ouverte, en tout cas aux adolescents. Ça m'intéresse beaucoup de connecter les jeunes à. Les jeunes, c'est très délicat parce qu'ils sont dans un autre mouvement. Mais de retourner au jardin, ils se disent que c'est un peu. Bon.
Ouais, mais on capte pas dans le jardin.
C'est ça, peut-être.
Mais tu fais des arts, un peu des séjours comme ça, d'emmener
Oui.
les ados en cueillette sauvage dans la montagne, non?
Oui, j'accompagne les jeunes et les moins jeunes aussi dans les montagnes pour se reconnecter avec la. Et dans les jardins, dans notre jardin aussi, dans le jardin qu'on a. Et pour reconnecter les gens avec aussi bien l'agriculture, d'une autre manière aussi de faire l'agriculture. C'est vrai qu'on a vu l'agriculture d'une manière très, très dure maintenant, la façon dont c'est fait aussi. C'est beaucoup des ouvriers agricoles. Et alors que là, on essaie d'orienter sur une dynamique de groupe, déjà, de le faire en groupe. Et avec, bien sûr, avec toute une manière avec chanter et une manière un peu plus sensible, par exemple, de semer les plantes. Comme ça soit une fête, comme les Celtes le faisaient. Comme ça soit une fête, une célébration de semer. Le 21 décembre et le 24, c'est le renouveau de la lumière dans nos territoires du Nord. C'était une fête de semer les premiers grains de blé et des prières pour que au printemps ils puissent avoir une belle récolte. Donc reconnecter aussi avec cette belle manière de l'agriculture, de semer, de travailler la terre, voilà. Et pas que ce soit alors que si en plus si on le fait en groupe, c'est beaucoup moins fatigant que si on le fait chacun dans notre coin, voilà. Bah, c'est très utopique. Peut-être utopique dans ce monde où, voilà. Mais j'aime bien. Moi, j'aime bien transmettre ce savoir.
Quand tu me parlais de
Une
ça,
manière de
le mot
voir.
qui est venu, moi, c'était réenchanter le monde. Il y a quelque
Voilà.
chose comme ça de, tu vois, de, et dire d'être en groupe, d'honorer la nature, d'être dans la joie du lien avec le vivant, en fait, simplement, quoi, sans se prendre la tête, que de dire, bah ouais, quand on va s'occuper de la nature, pourquoi on ne pourrait pas le faire? Limite comme le faisaient les peut-être des anciens, plus en chantant, en partageant. Ok, même si ça peut être physiquement un peu plus pénible. Parce que oui, il y a des trucs à bouger, faut qu'on utilise notre corps, attention, quand même, mais que ça pourrait être dans une sorte de réenchantement du monde et que ça ne soit pas une corvée ou quelque chose de malsain, quoi. Que ça soit. Moi, c'est ça qui me venait, quoi, le mot réenchanter le monde, quoi.
Ouais, moi j'aime beaucoup aussi ça. Et même chose pour les cueillettes de plantes médicinales. On aime beaucoup que ça soit fait de cette manière-là. Et les jeunes, justement, pour montrer aussi d'autres choses, d'autres manières de vivre, une autre manière, enfin d'autres manières de vivre, non, des manières anciennes de vivre, voilà, aussi. En lien avec la simplicité, voilà. Les récoltes de plantes médicinales dans la montagne, la culture de plantes. Ouais. Et après, bien sûr, toute la transformation qui va avec l'alchimie et la manière dont on peut aussi transformer les choses. Donc,
Et puis de les transformer dans le respect, parce que l'agriculture intensive, elle les transforme aussi, les plantes, hein, mais peut-être pas de la même manière, quoi. Enfin, d'avoir, pour moi, c'est de finalement, tout ce que tu nous as partagé depuis tout à l'heure, c'est il y a la notion de, pour moi, d'honorer la nature, pas de la soumettre et de la contraindre et de la récolter parce que c'est indu. Mais il y a la notion de respect qui est là, quoi.
Et ça aussi, ça c'est les peuples premiers, hein, les peuples premiers, que ce soit des peuples, aussi bien que ce soit les Mongols, hein, les peuples, on peut dire les peuples premiers au niveau sociologique, ce serait dans différents pays, il en reste encore des traces et des traditions, hein, qui, de par leur danse, leur chant, protègent leur territoire, leur manière de vivre, leur alimentation, hein, et de par ça, ils font. Nous, on a reconnecté avec ça et on fait beaucoup de cérémonies d'offrande. Alors, par exemple, dans le Q, on fait des cérémonies à l'eau, tout simplement, à l'eau de la rivière. Tellement beau donc là, on offre simplement des choses. Hein, ça peut être tout simplement. Et là, on offre aussi à la lavande, par exemple. On fait des cérémonies d'offrande à la terre pour remercier. Alors, c'est symbolique, mais nous, ça nous fait du bien aussi. Parce qu'à un moment, on s'est rendu compte qu'on vivait grâce à cette plante. Beaucoup ma famille, je nourrissais ma famille grâce à cette plante. Donc je me suis dit, ouais, c'est beau de reconnecter avec d'offrir. Et donc on faisait des chants et on chantait et on offrait des choses. Voilà. Aussi bien à l'esprit de la montagne qu'à la lavande. Ça, c'est vraiment. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien, en tout cas, de reconnecter avec ces petits gestes simples d'honorer, de remercier la nature.
Ce que ça me dit, c'est que on revient à une sorte d'humilité humaine, quoi. Moi j'ai un peu l'impression que l'être humain, il a eu le melon, tu sais, qui a un peu augmenté, et puis il s'est cru au-dessus de tout le vivant, et que d'un coup il y a un retour en humilité de se dire non, en fait, comme tu disais, ben oui, la lavande, elle fait nourrir ma famille, donc il y a ce côté de, ben, je peux la remercier, j'ai de la gratitude, donc je peux limite lui faire une offrande comme un cadeau de remerciement. Parce que bah, si elle n'est pas là, je nourris pas ma famille, quoi. Alors que si y a la notion vraiment de la lavande m'appartient, je la récolte, elle est à moi et je la plante comme je veux et elle n'a rien à dire, c'est un peu. Pour moi, c'est ça l'ancien monde et le nouveau qui arrive, c'est juste un basculement du point de vue ou de la conscience, quoi. C'est de se dire j'allais dire, je pense que c'est un truc que tu connais, mais nous sommes tous reliés. Et que c'est pas moi je suis au-dessus ou l'être humain est au-dessus, mais en fait bah, je suis aussi important que la lavande, elle est aussi importante que moi, quoi.
Et moi, c'était pas pour forcément quand je voyais tout ça, puis, parce que j'ai fait aussi, hein, quand j'ai commencé mes études de plantes médicinales, j'étais pas forcément connecté avec tout ce monde-là plus sensible. Je venais de la ville, j'étais pas, mais j'ai découvert tout ça avec émerveillement. Et en même temps, je trouvais que et j'allais vers ce métier. Et en même temps, je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Il manquait quelque chose juste de monter sur son tracteur, cultiver, récolter. Donc, il manquait tout un domaine que j'ai appris avec le temps et je me suis rendu compte que ça me faisait du bien aussi. Voilà, je trouvais en tout cas, moi, une satisfaction de faire ça, en fait. J'ouvrais une autre perception. Après, ça, c'est le mot perception, c'est le mot des alchimistes, hein, le langage des oiseaux, on touche beaucoup. Percevoir, c'est un des mots les plus importants. De percevoir, perdre. Se voir, changer de regard, ou alors percer, voir à travers les choses. Donc, et persévérer aussi.
Bon, j'en ai même un autre, c'est le père du haut qui se voit à travers nous. Le père
Ah,
se
wow.
voit.
Allez, bien sûr. C'est bien, c'est
Ouais,
bien.
c'est comme si on avait la vision du père, en fait, pour moi. C'était
Ah.
OK. Ouais.
Et persévérer aussi. Persévérer.
Ouais.
Persévérer. Parce que ça, dans ce métier, moi, si j'avais pas persévéré, j'aurais. Parce que c'est vraiment à une autre vitesse du monde dans lequel on va. C'est une autre vitesse. Doit vraiment ralentir pour se connecter au monde végétal. Vraiment, avoir, pas être dans une aucune, justement, pour ceux qui savent leur jardin, aucune volonté vraiment de contrôle. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, en tout cas, avec le temps. Voilà, et ça, je le travaille toujours. Hein. Dans le jardin, quand on veut faire pousser ses carottes, pourquoi elles ne poussent pas? Alors que grand-père, il y arrive très bien, il le fait juste avec le cœur. Très bien.
Est-ce que toi, quand tu fais ton jardin, tu leur demandes à tes légumes où c'est qu'ils veulent pousser?
Ouais, j'essaie de faire ça. Ouais. J'essaie de sentir ça. Bah là, quand on plante un arbre, ou même quand on plante une plante, des plantes médicinales, je sens, on essaie de demander d'abord, aussi bien au lieu, voilà, aussi bien à la plante. Bien sûr, à des raisons techniques, hein, d'ensoleillement, de terre, de situation plus ou moins humide. Mais après, c'est vrai qu'il y a un feeling qui se crée. Hein. Et que je trouve ça intéressant. Et ça m'a beaucoup touché aussi. Ben, j'avais été étudié aussi en Inde, à Auroville. C'est une grande ville. Sri Aurobindo immerse sur le yoga de l'action. J'avais été étudié la reproduction de semences. Et j'arrivais avec mes concepts de biodynamie, tous des concepts un peu déjà tout faits. Le grand-père qui m'apprenait, il m'a fait tout de suite. C'est là que ça se passe, le cœur. T'as beau, t'embrouilles pas avec ça se passe.
Dans le cœur.
Voilà, donc depuis, c'est vrai que j'ai bien aimé cette réponse, ça m'a aidé. Donc j'essaie de me connecter avec ça quand je fais du jardin.
C'est chouette.
Quand je fais les choux.
Je sais que Karine, elle travaille avec des baguettes coudées, alors pas en géobiologie, mais plutôt elle les branche sur le chakra du cœur, et nous, des fois, on s'amuse dans le jardin à planter des trucs comme ça, on demande à la plante et la plante nous guide pour savoir où c'est qu'elle veut aller, quoi. Et c'est génial.
Ouais.
C'est que des fois, en cherchant, enfin, des fois, tu regardes que les plantes, quand tu suis après de la permaculture, et ben, les plantes qui demandent à être les unes à côté des autres, c'est les trucs qui doivent être les uns à côté des autres. Tu vois, nous, on n'a pas choisi. Les baguettes nous guident et puis les plantes nous disent ben, je veux être là ou je veux être là. Donc après, nous, on les plante là où elles veulent. Et souvent, c'est assez raccord, c'est assez génial.
Ouais, c'est bien. On
Comme
peut.
quoi, nous, on est juste là pour les planter, hein. On est juste l'outil, quoi. C'est elle qui décide.
Oui, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans le jardin. Et c'est pour ça que j'ai été vers ce métier, d'humilité. Ouais, le jardin, ça. Et puis les premiers métiers, ouais. Le jardin. C'est un des premiers métiers. Bon, c'est pour ça que j'étais attiré par ça aussi.
Et Antonin, tu transmets maintenant, tu fais des journées, des ateliers comme ça sur les plantes
Oui.
pour les gens qui ont envie de venir apprendre avec toi. Parce que maintenant, c'est toi qui vas transmettre, c'est toi l'ancien maintenant.
Oui, je partage. Oui, je partage ça. C'est tous ceux qui veulent venir sur notre
Ok.
terrain de partager.
Ok. Mais tu as des fois des choses que tu organises beaucoup plus en groupe avec des thèmes particuliers ou...
Oui, là par exemple, il y a un thème, bah, on fait des marches de pouvoir, et après aussi on fait dans la montagne, bah, pendant des cueillettes aussi, des cueillettes particulières, la cueillette de la lavande ou l'été, et aussi comme pas des retraites, mais oui, pendant 4 jours, de faire la sagesse des plantes, ouais, où on apprend les plantes, on se connecte d'une manière différente avec les plantes. Et c'est vrai qu'avant, j'avais toujours envie bien sûr, je communique toujours le côté assez technique ou scientifique, hein, les noms latins, la botanique assez simple, pour ceux qui veulent la découvrir ou ceux qui veulent l'approfondir. Mais ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est vraiment l'approche sensible. De guider, parce que après ça, vraiment, il y a une autonomie qui se crée chez les gens, leur connexion d'autonomie. Ouais. Que
Oui, de toute façon,
ça soit pour des futurs jardiniers ou des futurs cueilleurs ou des futurs ou simplement pour des gens qui veulent connecter le monde végétal, rencontrer le monde végétal.
oui, et puis ce qui me vient, c'est que le but, c'est que les gens ils rentrent en lien avec la plante, qu'ils aient leur lien à eux, parce que c'est ça qui va enrichir. Parce que vu qu'ils ont un filtre propre, s'ils rentrent en lien avec la plante, ils n'auront pas la même connexion que toi tu as ou que moi que j'ai. Et c'est là où après, quand on va partager, on va s'enrichir les uns les autres, en fait. Ouais.
Pas forcément tiré par les mêmes plantes.
Ouais,
Et ça
ben
aussi, c'est intéressant, c'est qu'après, ils sentent un feeling avec une plante, une autre, et à ce moment-là, et dans 2 mois, ce sera une autre, parce que ce sera la plante qui leur conviendra. Et la relation, on ne peut pas mettre de mots sur une relation d'amour, sur l'amour que tu as pour ta femme, ou moi, l'amour que j'ai pour ma femme, on peut pas mettre on peut mettre des mots, mais
oui.
ce sera très intime. La relation avec une plante, avec d'autres, avec la terre, c'est chacun très très personnel, non?
Ouais, ça devient finalement
Chacun sa relation.
ouais, c'est une relation à soi finalement. Parce que ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que finalement, c'est renouer avec son intime sensible, quel qu'il soit.
Ah. Et on le voit hein, chez les grands-pères, les gardiens de, comme tu dis, comme je pense que c'est ton œuvre, c'est ton chemin, les gardiens de la terre. Et donc, quand on voit des grands-pères et des grands-mères aussi de différentes cultures parler de la terre ou de ce qu'ils font, c'est avec le cœur, c'est beau, c'est juste leur passion, leur façon de vivre. Et c'est ça qui est magnifique parce que ça peut cette douceur en fait. Une douceur qu'on a tous dans le cœur. Et c'est ça qui, voilà, on retombe sur les premiers mots. Hein. Moi, ça m'a apporté beaucoup de douceur déjà. Beaucoup de douceur. C'est ça que ça m'a apporté.
C'est
Le
marrant
mot
parce
douceur.
que tu disais, on revient sur les premiers mots, et ce qui me venait tout à l'heure, il y a une dizaine de minutes quand on discutait, je me disais, mais le lien avec le végétal, la première chose que ça nous apprend, c'est se reconnecter au rythme du vivant. Parce qu'une plante, bah, il y a l'été, le printemps, l'automne, l'hiver, et quand tu plantes une graine, elle repousse, elle pousse l'année d'après, quoi, elle pousse pas dans 15 jours. Enfin, et que le végétal, finalement, il nous apprend vraiment à retrouver le rythme naturel et le lien à la terre, au cycle. Et là, en parlant de végétal, bah, c'est comme si on avait fait un cycle. On revient sur la douceur, ça y est.
C'est des grands enseignants, hein, les plantes et la nature, la terre. Un grand enseignant. Du rythme, comme tu dis. Du rythme.
On va arriver au bout de notre interview, Antonin. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose qui te vient ou que tu as envie de partager ou que tu as envie de.
Bon, toujours beaucoup de choses, mais c'est vrai que bah, c'est toujours sûr. Bah, cas, ouais, je remercie beaucoup le monde végétal de m'apprendre justement à avoir justement cette douceur et d'apprendre toujours en fait à vivre avec sur la terre, avec notre belle terre-mère. Et du coup, de sentir, d'être à l'écoute de ces fréquences, de ces belles fréquences du monde végétal et de la terre. Et à travers ça, je remercie beaucoup tous ceux qui œuvrent pour ça. Et pour ça que je suis tout de suite été très enthousiaste par ce que tu proposais. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un cadeau. Et j'ai reçu ces cadeaux d'autres personnes qui m'ont dit, Ah, t'inquiète pas, tu vois. Je leur disais merci, merci. Et t'inquiète pas, toi, tu vas le retransmettre à quelqu'un d'autre. Et donc, voilà. Donc merci. Merci d'être le lien aussi, merci Ludovic de faire ce lien et de pouvoir véhiculer en fait ces fréquences du monde
Merci.
végétal.
Ouais, merci, merci beaucoup, Antonin. C'était un plaisir de partager ce temps avec toi. Merci aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent. Pensez, si vous voulez, les coordonnées d'Antonin pour le suivre dans la montagne, apprendre avec lui. Je les mettrai en description de la vidéo, comme ça vous pourrez le contacter. Et il vous partagera, je pense, avec enthousiasme toutes ses connaissances sur les plantes sauvages, comestibles, médicinales et autres. Et puis je vous dis ben, à bientôt. Merci encore Antonin, merci à tout le
Merci.
monde. Et puis n'hésitez pas, si vous aimez, liker, partager ces vidéos. Et voilà, c'est la première des nouvelles sessions qui s'appelle Les Gardiens de la Terre. J'espère que bientôt on ira. Je réinterviewerai Laurent Geller pour son mouvement de préservation de préservation. Oui, c'est comme ça qu'on dit, hein, des Arhuacos en Colombie. Et puis, eh ben, je vous dis tous. À bientôt. Merci Antonin.
Merci.
Et bonne soirée ou bonne journée à tout le monde. À la
Merci à
prochaine, au
toi.
revoir.
Salut, salut.